Vous écoutez, on lit pour vous.
Quand l'isolement menace la démocratie. Un dossier de Judith Lachapelle paru le 1er avril 2024 dans la presse. Hannah Arendt et les postiers britanniques. Être isolé est très mauvais pour la santé. Ça, de multiples recherches l'ont démontré au fil des ans. Plus de dépression, de maladies cardiovasculaires, de démence, de diabète. D'un point de vue individuel, la déconnexion sociale gruge l'état de santé d'une personne comme le ferait la consommation de 15 cigarettes par jour, a rappelé en 2023 le médecin américain Vivek H. Murthy, administrateur national de santé publique aux États-Unis. Ce qu'on dit moins, c'est à quel point l'isolement social des individus finit par affecter toute la société démocratique. La démocratie ne garantit pas la connectivité sociale, c'est vrai, dit la sociologue passionnée des questions de solitude et d'isolement social Kim Samuel. Mais un manque de liens sociaux mine la démocratie. Mais avant de parler de totalitarisme, de la philosophe allemande Hannah Arendt, et du côté sombre du besoin d'appartenance, Kim Samuel préfère parler des postiers britanniques. Avez-vous entendu parler du scandale du service postal? Ici, ça choque tout le monde, lance cette Ontarienne d'origine qui voyage entre les universités McGill et Oxford, que nous avons jointe en visioconférence fin janvier dans son appartement londonien. Le British Post Office Scandal, donc, remonte à 1999. Cette année-là, un nouveau système informatique de gestion comptable des stocks, appelé Horizon, a commencé à être implanté dans le réseau des comptoirs postaux du pays. Ceux-ci sont gérés par des commerçants qui obtiennent une concession de Post Office, la société d'État qui coordonne le réseau de distribution du courrier. Le système Horizon fonctionnait mal. Bien vite, les postiers se sont plaints qu'Horizon détectait un déséquilibre incohérent entre les recettes et les dépenses. Mais les gestionnaires de The Post Office ont ignoré les plaintes des postiers. Pire, entre 1999 et 2015, la société a poursuivi pour fraude et vol au moins 700 postiers sur la base des informations erronées fournies par Horizon, soit plus d'un postier accusé par semaine, pendant 16 ans. Dans toute cette saga, qui fait encore les manchettes au Royaume-Uni 25 ans plus tard, Kim Samuel a été frappé par un élément en particulier. Quand les postiers ont rapporté des problèmes avec Horizon, se souvient-il, chacun d'entre eux s'est fait dire qu'il était la seule personne à prétendre que le système s'était trompé. La seule. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Ce n'était pas un hasard. Les enquêtes publiques ont démontré que les agents du centre d'appel chargé d'aider les postiers avaient reçu la consigne de leur dire que personne d'autre n'avait signalé une erreur. Du coup, la crédibilité de la plainte du postier était mise à mal. « Je me suis senti stupide d'apprendre que j'étais la seule personne qui avait des problèmes », a témoigné la postière Marjorie Lauren Williams lors de son audience en 2021. Les conséquences de cet isolement ont été dévastatrices. Incapable de contester la preuve apparemment irréfutable délivrée par Horizon, des postiers ont puisé dans leurs économies pour éponger le manque à gagner. Beaucoup ont perdu leur commerce, leur réputation. Certains ont fait de la prison. Des cas de tentatives de suicide et de suicide ont été rapportés. Comme il n'y avait aucune mention nulle part que d'autres postiers avaient vécu la même chose que moi, ma situation me semblait complètement désespérée, a témoigné un autre postier, Yogi Noel Thomas, à propos du moment où il a été condamné à 9 mois de prison. Après avoir purgé sa peine, il a gardé le silence sur ces événements pendant 3 ans. « Je me sentais terriblement seul, croyez-moi. » Ce n'est qu'à partir de 2008 que des témoignages ont commencé à émerger et que des doutes ont été publiquement soulevés quant à la fiabilité d'Horizon. Et les gens ont réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement d'eux. Ils ont pu se rassembler. Ils n'étaient plus seuls, dit Kim Samuel. Et il est là, le lien avec la philosophe allemande Hannah Arendt. Le totalitarisme discret. Hannah Arendt a fui l'Allemagne nazie en 1933, puis y est retournée à la fin de la guerre pour essayer de comprendre ce qui s'était passé dans la tête de ses compatriotes. Dans son œuvre « Les origines du totalitarisme », publiée en 1951, Hannah Arendt observe que ce système se fonde sur le sentiment de solitude, qu'elle décrit comme une expérience d'absolue non-appartenance au monde, qui est l'une des expériences les plus radicales et les plus désespérées de l'homme. Les despotes misent sur la déconnexion, rappelle la professeure Samuel. À la base, poursuit-elle, les personnes isolées ont plus de mal à s'organiser, à participer au discours public, à questionner les représentants du gouvernement. Lorsque nous sommes déconnectés de relations qui ont du sens avec d'autres personnes de nos communautés, il est virtuellement impossible d'engager des actions collectives contre l'injustice. Bien sûr, la menace de l'instauration d'un régime politique totalitaire dans des pays comme le Royaume-Uni ou le Canada est peut-être faible. Mais ce qui est arrivé avec les postiers de The Post Office vous montre à quel point les choses peuvent facilement mal tourner s'il n'y a pas d'endroit où les gens peuvent se connecter les uns aux autres. Vous écoutez « Quand l'isolement menace la démocratie », un dossier de Judith Lachapelle paru le 1er avril 2024 dans la presse. Le côté sombre de l'appartenance. Les institutions menacent la démocratie lorsqu'elles isolent délibérément les individus, comme dans le cas des postiers britanniques. Mais des individus peuvent, eux aussi, menacer la démocratie dans leur quête d'appartenance si la société ne favorise pas suffisamment les liens sociaux. Lorsque nous ne sentons pas que nous avons une place dans la société, nous allons chercher ce sens de l'appartenance ailleurs, dit la sociologue Kim Samuel, et c'est ce qui peut entraîner les gens dans une mauvaise direction. Cette mauvaise direction, c'est le côté sombre du sentiment d'appartenance, décrit-elle dans son livre « On Belonging, Finding Connection in an Age of Isolation », paru en 2022. Nous sommes prêts à tout pour combler ce vide, pour éviter d'être coincés seuls au fond du puits. Ce besoin fondamental d'appartenance peut pousser une personne vers des comportements qui vont, paradoxalement, accentuer son isolement, comme l'adhésion à des idées ou des groupes radicaux. L'isolement est un facteur de vulnérabilité important dans le processus de radicalisation, observe aussi Louis-Odette Gosselin, directeur scientifique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Si la société n'arrive pas à fournir ses sentiments d'appartenance, certains iront les chercher dans des mouvements extrémistes, souligne Louis-Odette Gosselin, directeur scientifique du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Beaucoup de gens qui sont radicalisés ou qui sont passés à l'acte violent étaient déjà passablement isolés. Ils avaient coupé les ponts avec leur entourage ou vécu des difficultés dans leurs relations interpersonnelles, dit-il. Quand on cherche à comprendre leur parcours, on découvre qu'il y avait souvent déjà des fossés qui s'étaient creusés. La radicalisation vient sceller des ruptures avec l'entourage. C'est un peu un paradoxe, poursuit M. Odette Gosselin. Une personne cherche un tissu social plus solidaire, plus serré, qu'elle aura le sentiment de trouver auprès d'une communauté qui renforcera son isolement en marge de la société. On l'a vu avec les mouvements complotistes ou parmi les personnes qui s'étaient mobilisées contre les mesures sanitaires, dit-il. La joie, le bonheur d'appartenir enfin à une communauté d'esprit est bien réel. Par exemple, Ce qui était frappant dans le convoi d'Ottawa, au-delà de toutes les tensions, c'était à quel point les participants étaient très heureux d'être là. C'était la première fois qu'ils participaient à un grand mouvement. Ils se sont fait des amis, ont noué des liens. La marge, l'exclusion, n'est pas nécessairement une fatalité. Mais il faut être là pour accueillir ces moments de doute et proposer des portes de sortie, dit M. Odette Gosselin. Ça peut être simplement d'échanger avec la personne, de l'aider à trouver un emploi, de comprendre ses besoins et de voir comment on peut y répondre autrement que par des idées extrémistes. Des trucs très basiques, mais qui sont importants pour retrouver un sens à la vie. La solitude au Québec. Il est difficile de savoir à quel point le sentiment de solitude est en augmentation, mais chose certaine, sa prévalence est désormais une préoccupation des autorités de santé publique partout dans le monde. Qu'en est-il au Québec? Suivre la tendance. Quand la Grande-Bretagne a décidé de créer un ministère de la solitude en 2018, l'intérêt des chercheurs en santé publique québécois a été titillé. Qu'en était-il de ce sentiment de solitude au Québec? Julie Lévesque, conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, a organisé une journée thématique en 2018 précisément sur cet enjeu pour faire un état des lieux. La pandémie aura ensuite donné l'occasion à l'INSPQ de mesurer ce sentiment de solitude dans la population québécoise en lien avec les mesures sanitaires prises contre la COVID-19. Depuis mai dernier, un nouveau sondage mensuel sur les habitudes de vie des Québécois continue de suivre l'évolution de ce sentiment d'être isolé des autres. Pourquoi mesurer le sentiment de solitude? Il est difficile de conclure que le sentiment de solitude est en augmentation au Québec ou dans le monde. Les données sont difficiles à comparer. Chose certaine, il s'agit d'une préoccupation de plus en plus présente en santé publique. Dans la littérature scientifique, le sentiment de solitude a été comparé à la soif ou à la faim, dit Julie Lévesque. C'est comme un signe d'inconfort, de mal-être. Si la solitude ou l'isolement se perpétue dans le temps, ça peut provoquer une augmentation de l'anxiété, du stress, une diminution de l'estime de soi. Ça peut engendrer une perte de motivation quant à la poursuite de ses études ou du travail. Ça peut être associé à de la dépression, affecter le sommeil, augmenter la consommation de substances psychoactives. Ça peut être un facteur de risque de suicide, énumère Mme Lévesque. Bref, la liste est longue. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le manque de liens sociaux est un facteur de risque de mort précoce équivalent ou supérieur aux facteurs suivants: tabagisme, abus d'alcool, inactivité physique, obésité, pollution de l'air. Vous écoutez « Quand l'isolement menace la démocratie », un dossier de Judith Lachapelle paru le 1er avril 2024 dans la presse. De l'importance du voisinage. En colligeant les données disponibles en 2018, Julie Lévesque a été étonnée par certaines comparaisons avec le reste du Canada. Par exemple, celles montrant que les Québécois nouaient moins de liens avec leur voisinage que dans le reste du Canada. Madame Lévesque, qui a coordonné pendant quelques années des initiatives municipales pour promouvoir les relations de bon voisinage, y voit un exemple de l'effet pernicieux de la prévalence du sentiment de solitude sur l'ensemble de la société. Connaître ses voisins devient notamment de plus en plus pertinent dans le contexte actuel où il y a des catastrophes naturelles, des épisodes de chaleur accablante, des inondations. C'est notamment sur la base de ces observations que la fête du voisinage ou des voisins a été relancée au Québec au début des années 2010. Une constante, les jeunes. Des analyses plus fines devront être menées pour tirer des conclusions. Mais déjà, quelques tendances se dessinent. Entre mai et décembre 2023, les jeunes Québécois de 18 à 24 ans étaient toujours les plus nombreux à ressentir de la solitude. Les jeunes adultes vivent des transitions de 18 à 24 ans. Ils vivent souvent des changements importants dans leur vie, par exemple le départ du nid familial, la poursuite d'études, un déménagement, un emploi, dit Madame Lévesque. Toutes ces transitions provoquent parfois des changements rapides qui modifient nos liens sociaux et engendrent un sentiment de solitude. Il s'agit cependant d'un phénomène qui n'est ni nouveau ni exclusif au Québec. Pas une question d'éducation ni d'argent. Les données récoltées jusqu'ici semblent aussi montrer que le niveau d'éducation n'a pas d'impact sur la prévalence de la solitude, pas plus que la situation financière. Qu'on soit riche ou pauvre, la proportion de personnes qui se disent isolées est la même. Les Montréalais sont souvent plus nombreux que les autres à dire « se sentir seul », mais pas toujours. C'est l'Outaouais qui a compté le plus décelé dans le sondage de décembre 2023. À deux, c'est mieux. Par contre, le nombre de personnes qui vivent ensemble sous un même toit est un indicateur. Ce n'est pas parce qu'une personne vit seule qu'elle souffrira de solitude, nuance Madame Lévesque. Mais on sait que les gens qui vivent seuls sont plus susceptibles d'être isolés. Paradoxalement, si la maisonnée compte plus de deux personnes, le sentiment de solitude va en augmentant. Les gens sont étonnés de découvrir que, parfois, des personnes entourées se sentent seules. Mais ce n'est pas, par exemple, parce qu'une personne vit dans une résidence de personnes âgées où il y a beaucoup de monde que cette personne ne souffrira pas de relations sociales insatisfaisantes. C'était Quand l'isolement menace la démocratie, un dossier de Judith Lachapelle paru le 1er avril 2024 dans la presse.
Dompter l'intelligence artificielle grâce au théâtre, un texte d'Alexandre Sirois paru le 25 avril 2024 dans la presse. Pour beaucoup d'artistes, l'intelligence artificielle représente d'abord une menace, celle de voir des robots leur voler leur rôle de créateur. Or, notamment grâce au théâtre, l'art peut aussi contribuer à façonner l'avenir de cette technologie en pleine expansion, croient les auteurs Dominique Leclerc et Patrice Charbonneau-Brunel. On va parler bientôt d'intelligence artificielle à Montréal, dans un endroit où ce sujet n'est généralement pas en vedette, un théâtre. L'actrice et autrice Dominique Leclerc s'intéresse depuis longtemps à l'impact des technologies sur nos sociétés. Ces jours-ci, les développements de l'intelligence artificielle sont sur son radar alors qu'elle prépare une pièce qui sera présentée chez Duceppe en février et mars 2025, Une vie intelligente. Je me pointe dans plein de réunions où on dit que c'est une menace pour l'humanité et qu'il faut faire quelque chose. Moi, j'ai envie de me lever et de dire « OK, mais qu'est-ce qu'on fait ?» explique-t-elle en haussant le ton. Un peu comme si, tout à coup, elle était au micro lors d'une des rencontres dont elle parle. Mais elle est bel et bien devant moi, dans un local de répétition de la rue Folhomme. Elle s'y trouve en compagnie de Patrice Charbonneau-Brunel, son partenaire de création. C'est ce qu'on se demande avec le show, si l'heure est à l'action citoyenne, qu'est-ce qu'on fait? Je ne dis pas qu'on va trouver la solution d'ici un an, mais si on a 800 personnes avec nous chaque soir, j'espère qu'on va être capable d'activer quelque chose de cet ordre-là, nous dit Dominique Leclerc. Pour la petite histoire, c'est l'Université de Montréal qui a approché le théâtre du CEP avec l'idée d'une pièce sur l'IA. Ce dernier a ensuite contacté les deux créateurs au début de l'automne 2022. À l'époque, ChatGPT n'était pas encore connu du grand public. La démarche s'inscrivait plutôt dans le cadre de l'adoption de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Avant de rencontrer ces deux artistes, j'étais curieux de voir comment le monde du théâtre pouvait s'approprier ce sujet souvent déroutant. J'ai rapidement compris, en les écoutant, à quel point leur rapport peut être pertinent. Je me demandais aussi comment Dominique Leclerc allait aborder ce sujet, sachant que dans le cadre d'une performance théâtrale, elle s'est déjà fait implanter une micropuce. « Elle est encore ici », lance-t-elle en pointant sa main droite. On y retrouve, entre autres, son certificat de mariage. C'est lié à mon premier spectacle. Elle avait conçu, en 2017, une pièce de théâtre sur le transhumanisme, c'est-à-dire l'utilisation des technologies pour améliorer les humains. La pièce était intitulée « Post-humain », du nom de la compagnie formée quelques années plus tôt avec Patrice Charbonneau-Brunel, post-humain en un seul mot. La compagnie se penchait donc à ses débuts sur le fait que la technologie commençait à modifier la façon dont on va se définir intérieurement. En s'attaquant aujourd'hui de front au sujet de l'intelligence artificielle, elle défriche sensiblement le même terrain. Avec un point de vue forcément différent de celui des spécialistes de la question. Ça fait une dizaine d'années qu'on m'invite à me prononcer dans des conférences, souvent à côté d'experts, de chercheurs, de chercheuses, qui ont des titres que ça prend 30 secondes à nommer. Et je me questionne toujours sur ma position. Parce que je me permets d'activer du sensible, de l'anecdote, des observations plus spontanées, dit Dominique Leclerc, qui poursuit « J'embrasse cette liberté permise par le théâtre et qui, je pense, peut être riche dans la réflexion. » Elle pense, entre autres, s'en servir pour donner la parole sur l'intelligence artificielle à tout un chacun. Je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement riche dans les intuitions de la population. Que les gens qui ne sont pas experts du domaine, ont une parole qui est précieuse et qui est peut-être absente en ce moment parce que ce sont des données qui sont difficiles à comprendre, dit Dominique Leclerc. Ce n'est pas qu'ils vont bouder les experts. Quelques jours après notre entrevue, ils allaient rencontrer Joshua Bendio, une sommité mondiale en intelligence artificielle. On a envie d'entendre les experts se prononcer, il le faut. Mais j'ai envie qu'on démocratise la réflexion, qu'on donne aussi la parole à ceux qu'on entend moins dans les médias, explique la créatrice. C'est complètement en harmonie avec l'ADN de la Déclaration de Montréal, qui est reconnue à l'international et qui est vraiment partie de consultations citoyennes, ajoute Patrice Charbonneau-Brunel, qui explique que l'idée du dialogue fait aussi partie de leur démarche. On aime beaucoup les discussions avec le public, après les spectacles, parce qu'il y a toujours des questions, des réflexions, des inquiétudes, de l'étonnement. Ça crée toujours un espace de dialogue super riche. C'est une de nos parties préférées dans nos spectacles. J'ai aussi voulu savoir s'ils ont peur de l'intelligence artificielle. Ils m'ont dit non, sauf que... Ce n'est pas le futur qui me fait peur, c'est le présent, c'est l'absence de discussion. La première rencontre avec l'intelligence artificielle, on l'a déjà eue, c'est les réseaux sociaux. Et on n'est pas arrivé collectivement à gérer ça correctement, souligne Dominique Leclerc. Ce qui me fait peur, c'est la course corporative qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de s'arrêter pour prendre une respiration et que même s'il y a eu des lettres, des demandes de moratoire, ça ne sert à rien, poursuit-elle. C'est comme si on courait après quelque chose alors que personne ne comprend après quoi on court. C'est ça qui ne fait aucun sens. Ce qui tombe sous le sens, en revanche, c'est que le théâtre est en fin de compte un espace tout indiqué pour prendre une respiration et réfléchir aux enjeux soulevés par l'intelligence artificielle. C'était « Dompter l'intelligence artificielle grâce au théâtre », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 25 avril 2024 dans la presse.
Quatre œufs pour les faucons de l'Université de Montréal. Un texte d'Alexandre Shield, paru le 17 avril 2024 dans Le Devoir. La femelle du couple de faucons pèlerins qui niche au sommet de la tour du pavillon Roger Gaudry à l'Université de Montréal a pondu un total de 4 œufs début avril 2024. Les éclosions pourraient débuter vers la mi-mai si tout se passe bien. Les internautes qui suivent en direct ce qui se passe au nid ont pu constater que la femelle, nommée Ève, a pondu ses œufs entre le 6 et le 13 avril. C'est d'ailleurs surtout elle qui couve dans le nichoir constitué d'une simple boîte de bois garnie de gravier. Le mâle, nommé Miro, s'affaire principalement à lui apporter de la nourriture, dont des pigeons. Il couve néanmoins quelques heures par jour, selon ce qu'on peut observer sur la chaîne YouTube « Faucon U2M en direct ». D'ici une trentaine de jours, les premières éclosions de fauconneaux pourraient avoir lieu. En 2023, deux des quatre œufs ont donné des oisillons, mais aucun n'a finalement survécu. Au fil des ans, une trentaine de fauconneaux sont nés au sommet de la tour, qui a jusqu'ici accueilli deux femelles reproductrices depuis l'installation du nichoir en 2009. Quant aux jeunes nés sur le terrain de l'Université de Montréal, on ne peut pas toujours savoir ce qu'ils sont devenus par la suite, même s'ils sont tous munis d'une bague d'identification. Certains ont niché dans le secteur de l'échangeur Turco, et un des jeunes faucons a été trouvé blessé dans l'État de New York, puis relâché. Des faucons pèlerins nichent par ailleurs sur la structure de plusieurs ponts de la région de Montréal. C'est le cas notamment des ponts Jacques Cartier et Honoré Mercier. Sur ce pont, des fauconneaux sont nés début avril. C'était « Quatre œufs pour les faucons de l'Université de Montréal », un texte d'Alexandre Shield, paru le 17 avril 2024 dans Le Devoir.